Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur la radio mondiale, notre rendez-vous unique hein, aujourd'hui, même si nous allons encore parler de Ligue des Champions. Il y en a qui dansent déjà dans le studio sur cet air archi connu, mais on aime bien toujours en mettre quelques notes. On l'aime autant que les joueurs. Barça-Inter, quel spectacle hier soir en Catalogne, avec un festival de buts, un score final 3-3, de beaux buts, de belles actions dans un match débridé et spectaculaire. Un régal. Et puis, un joueur au-dessus du lot, Lamine Yamal, il était en feu. On est déjà impatient d'assister au match retour à Milan. Merci les artistes. Deux demi-finales différentes et enthousiasmantes. Qui a frappé le plus fort selon vous? Le PSG en allant gagner à Arsenal, l'Inter Milan en arrachant le nul à Barcelone. Qui est en position favorable pour atteindre la finale? Qui se risquera à vous le dire d'ailleurs dans ce studio? Et puis nous avons un invité très spécial dans cette émission. Il est venu de Dakar, c'est le directeur de la communication de Génération Foot. Il a joué aussi au football, il connaît très bien cette matière. Il est donc de l'Académie de football sénégalaise, Talafal, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tout le monde ici sur le plateau.
Très
bonjour.
Heureuse de vous retrouver. Vous avez été notre invité à Dakar, bien de Dakar à ici. Il n'y a qu'un pas apparemment.
Apparemment, d'après ce que j'ai pu constater.
Vous avez trouvé notre studio.
Voilà.
Grâce à Yoro Mangara, notre grand ami sénégalais.
Absolument.
En tout cas, merci de profiter de ce jour férié pour venir nous rendre visite. Votre académie, nous allons en parler, elle a formé de grands noms du football mondial, à commencer par un champion de la Ligue des Champions, un certain Sadio Mané. Nous en parlerons, et alors il fait son retour dans ce studio après de longues vacances dans l'hémisphère sud. Là, il fait meilleur vivre en hiver européen.
J'ai bien mérité les vacances parce que je travaille le 1er mai.
Exactement, exactement. Vrai, bonjour Carlos Bianchi.
Bonjour, plaisir d'être avec vous.
Un plaisir renouvelé de vous recevoir dans notre studio, de vous accueillir et de vous écouter d'ici peu. On le sait, nos auditeurs vous adorent et adorent vos petites histoires. Et puis pour peut-être vous contredire, peut-être aussi aller dans votre sens, et bien nos deux amis qui sont là, Dominique Sévrac, bonjour.
Bonjour Annie, je suis toujours d'accord avec Carlos.
Dominique qui adore la musique de la Ligue des Champions.
Bien sûr.
Ça caresse vos oreilles, peut-être jusqu'en finale, mais en tout cas.
Hein, qu'est-ce que ce serait beau. Tellement difficile d'arriver en finale.
Et puis Jean-Philippe Bouchard, bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être là donc aujourd'hui, en ce jour où personne ne travaille, sauf nous, ou peu de gens en tout cas en France qui en profitent et qui profitent de cet été avant l'heure. David Finzel est là, fidèle au rendez-vous, ainsi que Laurent Salerno. Radio Foot, c'est parti.
Más la niña mal aparece, más brilla la joya de la masía.
Dum 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 dum. Dumfries, rabechata acrobática.
Con un zapatazo espectacular de Rafinha, con el que se alió la diosa fortuna para volver a resetear la eliminatoria. Marcó Capitão.
Quelle énergie, c'est l'énergie que nous a transmise cette rencontre hier. C'était une nuit magique à Montjuïc où les adversaires se rendaient but pour but et au final un score nul, mais sûrement pas un spectacle nul. Et c'est ce que nous ont offert hier soir les acteurs de cette épique rencontre de demi-finale de Ligue des Champions. On a donc déjà hâte de voir la saison 2, hein, comme on dit, sur les meilleurs feuilletons, d'assister au match retour à Milan. Les Blaugrana recevaient des interistes qui nous semblaient, avant le match en tout cas, un peu affaiblis par leur défaite récente, mais s'ils arrivaient avec la meilleure défense de la compétition, ils ont montré aussi qu'ils savaient marquer des buts. Ils ont ouvert le score, un bijou de talonnade de Marcus Thuram, qui en plus a rendu hommage à son papa, qui était en tribune, en faisant la même commémoration que lui, une certaine demi-finale de Coupe du Monde, n'est-ce pas, Dominique ?
8 juillet 98.
Mm-hmm. Et c'était contre la Croatie, un doublé alors de, du papa Thuram, de Lilian Thuram. Hier, c'est donc Marcus Thuram qui a ouvert le score, cette avalanche de 6 buts en 90 minutes. Et puis on a eu droit à ce bruit. Est-ce que quelqu'un identifie ce que c'était que ce bruit ? Remettez-le. C'était le bruit du ballon sur la barre de ce dernier but où Rafinha tire et sur la barre.
Et ça tape le dos de Sommer.
Le dos, la tête. La tête, je crois.
Et ça finit dans le but.
Dans le but. Mmh.
Exactement.
On l'attribue à Rafinha quand même, j'espère.
Et l'égalisation, j'espère.
Non. Non, non,
non. Non,
tu ils l'ont attribué au gardien.
Le but, c'est, oui, c'est contre son camp.
Contre son camp.
C'est contre son camp.
C'est terrible.
Oui,
c'est
mais malheureux. Elle rentre pas sans ça.
C'est malheureux, mais c'est comme ça. Que c'est lui qui l'a mis dans le but. Ben, c'est le gardien.
Mais on a eu droit à plusieurs barres hier, en plus, Carlos.
Le petit. Qui l'a mis au deuxième poteau. Le petit, il est bon. Hein.
Ah oui. Ben justement, le petit. Alors, parlons-en. Ce fut l'une des... Donc, demi-finale les plus prolifiques de l'histoire, par son nombre de buts, par son scénario, et puis ce joueur hors du commun. Alors impossible de ne pas le remarquer, déjà avec sa coiffure, je suppose que vous avez tous apprécié, au moins le repérer sur le terrain, ses cheveux décolorés en blond. Lamine Yamal, prodige espagnol, on l'a évidemment déjà admiré pendant l'Euro, la France en a soupé. Il a été noté 9 par le quotidien L'Équipe ce matin, il disputait déjà son 100e match de professionnels sous les couleurs Blaugrana. Lamine Yamal, qui a aussi battu un record hier soir, n'est-ce pas Dominique ? C'était celui de Kylian Mbappé. Alors d'ailleurs, Kylian Mbappé, quand il avait établi ce record, il jouait à Monaco, il n'était pas encore arrivé au PSG. Il avait 18 ans et 140 jours quand il avait marqué en demi-finale de Ligue des Champions. Et bien là, hier soir, Lamine Yamal avait 17 ans et 291 jours. Tout le monde l'encense dans la presse aujourd'hui, dans les médias, sur les réseaux sociaux, et a commencé évidemment par son entraîneur Hansi Flick.
Il est spécial, vraiment spécial. Et je l'ai dit souvent, c'est un génie. Tu sais, pendant le match, quand je le regarde de l'extérieur, c'est pas pareil que quand tu revois les images après. Là, tu remarques tous les petits détails, et c'est fou ce qu'il arrive à faire. Et il n'a que 17 ans, c'est tout bonnement dingue. Ce qui compte pour moi, c'est qu'il continue comme ça. Et il le monte dans les gros matchs. C'est ce qu'on attend de lui, ce dont on a besoin, et il le fait à chaque fois. Dans les grands rendez-vous, il est là, il répond présent. Et je crois qu'il aime ça, il aime ce genre de moment. Et franchement, je suis super content qu'un tel talent, un jeune comme ça, ça sort une fois tous les 15 ans, eh bien, qu'il joue pour le Barça.
Carlos Bianchi, votre regard, vous, qui avez joué et qui avez entraîné sur ce genre de joueur.
D'abord, avoir la chance de l'avoir.
Bah ça, oui, c'est ce que dit Flick, hein, bien sûr. Il est content qu'il joue avec lui.
Et après, si tu ne l'as pas, et de le voir jouer. Et franchement, il est frais, il est jeune, tu vois, qu'il est presque naïf. Il prend le ballon pour jouer, lui. Il y a des fois qu'il exagère même. Il y a des fois qu'il te la montre comme ça. Et nous, on n'aime pas tellement quand on te montre le ballon comme ça. Mais il a les qualités pour être... Je sais très bien que, parce que j'ai lu pas mal de fois que Dembélé pourrait avoir le ballon d'or, mais je crois que la saison du Petit elle est beaucoup plus importante que celle de Dembélé.
Elle est plus régulière en tout cas.
Hein. Jean-Philippe. Il avait explosé à l'Euro déjà. Donc
exactement, il n'était pas titulaire, je crois, le premier match.
Non, mais il finit quand même très fort.
Et justement.
Et donc c'est là qu'il s'est vraiment révélé aux yeux du monde. Et là, il poursuit sur sa lancée cette saison, qui est la grosse saison du Barça quand même, parce que le Barça est en lice pour un triplé quand même. Donc voilà, c'est quand même. Ça fait un moment qu'ils attendaient ça. Donc là, il est dans la seringue, comme on dit. Quoi. Il est tout lui sourit. Et effectivement, il a un peu, je ne sais pas si c'est de l'insouciance, de la jeunesse ou de la confiance, mais il tente énormément et il réussit énormément. Alors,
son but hier, qui sonne la révolte à la 24e minute.
Et l'autre qui va sous le traversal.
Et ce qui est terrible pour les adversaires, c'est de savoir ce qu'il va faire ou d'essayer d'anticiper, mais de ne pas pouvoir.
Je pense que le défenseur Di Marco, il a bien souffert.
Il a pris la marée.
Mais Di Marco, je pense que, je ne sais pas, non, si l'Inter de Milan, il a la possibilité de mettre un arrière gauche qui soit droitier. parce qu'il rentre toujours, lui. Mm-hmm. Et ouais. Di Marco, il est gaucher-gaucher.
Oui, mais il peut, il rentre, il va à l'extérieur.
Non, oui, mais s'il va à l'extérieur, c'est moins dangereux. Mm-hmm. Moins dangereux parce que la seule chose qu'il peut faire, c'est de centrer. Par contre, quand il rentre, il a le but de face.
Bah, il peut centrer quand il va à l'extérieur. On l'a vu sur le tir sur la barre. Il te refait un crochet pour tirer. Ouais. Pour tirer et Sommer la met sur la barre. Parce qu'il a failli marquer deux buts en une minute. Mm-hmm.
Ouais. Remettre les pendules à l'heure.
Sur l'engagement, il a une autre occasion énorme où là, il dribble complètement sur le côté droit extérieur et il fait une dernière feinte pour revenir sur son pied gauche. C'est extraordinaire parce que. Moi, je ne sais pas ce qu'il va faire quand il a le ballon. Je suis sidéré.
Tout est possible. Ouais.
Je suis sidéré par exemple son but. Je ne le vois pas arriver. Son but, il est avec Koundé dans un échange assez loin du but. Il commence à récupérer le ballon dos au but et dos au défenseur.
Je crois qu'il a fait 24 mètres.
Et après, il repart et là, je me dis bon, il y a quand même une forêt de joueurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Et après son tir, pour moi, il est masqué. C'est-à-dire, je ne vois pas le départ du ballon. C'est-à-dire, d'habitude, je sais quand un joueur va armer, à peu près, sur quel appui.
Non, parce que lui, il le touche, le ballon. Il c'est le frappe, ça. Il lève pas tellement le pied pour frapper.
Mais c'est...
On dirait qu'il le caresse.
Une chose. Lui-même, il sait pas ce qu'il va faire. Lui-même, il joue
tu
il
crois?
Sait pas ce qu'il
tu crois?
Oui, parce que lui, il joue aussi avec la jambe d'appui des défenseurs.
Oui, oui.
Moi, ouais. Quand j'attaquais un défenseur, je l'attaquais comme ça. Selon la jambe d'appui, je allais de côté opposé.
Ah oui, bien sûr.
Et lui, il te regarde, t'inquiète pas. Il a le ballon, il l'a comme ça, puis il te regarde.
Mais alors, comment tu expliques, là, par exemple, pour revenir sur sa frappe, que c'est une espèce de. Il n'y a pas de.
Non, parce qu'il a fait comme ça, lui.
Oui, mais.
Comme il marche, il frappe.
Oui.
Il lève pas la jambe pour frapper.
Mais comment ça se fait que ça part aussi bien?
Parce qu'il le place, le ballon, lui. Il le frappe. Rarement, il le frappe en puissance.
Mais ça, c'est des qualités exceptionnelles d'un joueur.
Ouais.
C'est-à-dire que ça, tu n'as pas besoin d'un entraîneur pour te le faire travailler.
Non,
c'est un don. C'est quelque chose qui est en toi.
Avec.
C'est inné. Donc, quand tu caresses le ballon, quand tu frappes, ça, c'est pas quelque chose qu'on t'apprend tout le temps sur le coup de pied ou quand tu joues avec l'exter du pied.
Parce qu'il le caresse, lui.
Même avec l'exter, tu te dis, est-ce que c'est lui ou pas? Parce que quand on voyait l'exter du pied, c'était avec des Zidane, des Modric qui ont cette facilité-là. Mais avec lui, il se balade, il se régale avec. Et donc, à partir de ce moment...
Hein, vraiment, je suis jeune. Je crois un joueur, le seul qu'il a fait autant, ça doit être Pelé. À 17 ans, il était champion du monde.
Là, il peut pas voter encore, il peut pas conduire, mais visiblement, il marque des buts. Hein. Ouais.
Alors Inzaghi, hein, en face, il a dit « Yamal est clairement un phénomène comme il en est peut-être tous les 50 ans. Je n'avais jamais vu un tel talent auparavant. Je l'ai vu ce soir pour la première fois, il nous a posé de gros problèmes, nous avons dû doubler le marquage.
Bah, » C'est-à-dire que les comparaisons avec un célèbre gaucher qui était à Barcelone il y a quelques années vont fleurir. Bon, pour moi, elles sont un peu abusives parce que Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Mais ouais, bon, un gaucher à Barcelone qui est extraordinaire.
On verra, mais
on va l'écouter.
Au même match, il avait 7 matchs. Hein, de...
Mais justement, on va l'écouter d'abord, Lamine Yamal, parce que c'était avant la rencontre. Et déjà, évidemment, puisqu'ils ont été formés tous les deux à la Masia et qu'ils éclosent comme ça, si jeunes et dans l'équipe première, eh bien, lui, en tout cas, lui, il ne veut pas se comparer à Messi.
Je ne me compare pas à lui car je ne me compare à personne. Je m'en remets donc à vous. Nous pensons juste à nous améliorer chaque jour et être meilleur le lendemain. Je pense donc que la comparaison avec Messi n'a aucun sens. J'essaie d'être moi-même et de faire mon propre chemin. Il est évident que je l'admire en tant que meilleur joueur de l'histoire, mais je ne me compare pas à lui.
Carlos, en même temps, d'autres évidemment pensent à Messi et en appellent à Messi, mais c'est vrai qu'il y a un Messi, un Maradona, un Pelé et puis il y aura peut-être un Yamal.
Mais bien sûr, en plus, il ne joue pas à la même place. Ce n'est pas pareil. Messi joue à l'intérieur, Maradona il joue à l'intérieur. Lui, il joue carrément à l'extérieur. Il faut voir, peut-être qu'il n'a pas les qualités pour jouer à l'intérieur. Hein.
Messi a commencé quand même plutôt côté droit, au départ.
Oui, mais après, il est rentré.
Mais au départ, à Barcelone, il était quand même couloir droit.
Oui,
parce qu'il était la doublure de Ludovic Joly.
Ouais. T'as la falle justement, vous qui envoyez des talents, au moins très jeunes. Après, ça ne confirme pas toujours. Après, ça peut ne pas être toujours dans le droit fil de ce qu'on peut entrevoir parfois. Est-ce qu'on s'emballe trop sur Lamine Yamal, selon vous?
Ben non, aujourd'hui, quand on voit le développement du football mondial, on se rend compte quand même qu'il y a des talents qui peuvent sortir de partout. Et comme on dit, le talent n'a pas d'âge. Donc, il y a des garçons qui sortent à 15 ans, 16 ans. Nous, à Génération Foot, on a connu un garçon
Amara Diouf, aujourd'hui, peut-être sauf blessure qu'il a un peu freiné dans sa progression. Donc, c'est des phénomènes comme ça. Ça arrive tout le temps et je pense que c'est pour le bien du foot parce que Lamine Yamal, ce qu'il est en train de faire, c'est pas seulement dans la formation. Tout ce qu'on peut lui apprendre, c'est peut-être dans le comportement, mais dans l'intelligence du jeu, dans la maturité, dans sa façon de se comporter sur le terrain, de prendre des initiatives, de demander le ballon. Parce que tu le vois, à un moment donné, il s'impose. Il demande à ses partenaires de lui donner le ballon, de jouer avec lui. Et après, lui, sa chance aussi, c'est qu'il ne s'emballe pas trop. Mais il reste collectif. Il joue pour l'intérêt de l'équipe. Et par moment aussi, on a besoin d'une individualité dans une équipe. Et là, à partir de ce moment, il fait la différence. Et tu sens que c'est le garçon qui peut à tout moment faire la différence et faire marquer son partenaire.
Mmh. Mais il marque des buts et il fait aussi beaucoup passes décisives.
Et c'est ça aussi sa chance à lui. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne s'emballe pas.
Il est toujours dans le sens du jeu.
Il est toujours dans le bon tempo.
Il respecte le jeu.
Et il respecte le jeu. Ça, c'est des fondamentaux qu'il respecte. Lui, il est pour le collectif. Et quand il faut frapper ou faire le dribble qu'il faut, il peut le faire et peut-être mettre sur orbite son partenaire le mieux de placé.
Est-ce qu'il a changé de dimension depuis hier soir, Jean-Philippe Bouchard, ou est-ce que finalement, justement, ce qu'on avait entrevu à l'Euro, ce n'est qu'une confirmation ?
Il était déjà très haut, c'était plus du tout un inconnu. Hein, il fait comme une grosse saison.
Non, mais hier, on le voit à un moment haranguer tout le monde.
Un match de foot, c'est aussi un spectacle, c'est une scénographie. Il y a des moments un peu hors du temps comme ça, comme le match d'hier, où effectivement il se passe des scénarios incroyables. C'est-à-dire que c'est pas la même chose. Il ferait un super gros match que le Barça gagne 3-0. Ça aurait peut-être moins d'impact. Là, le
contexte,
il ramène son club dans la marche. Il est décisif en fait, à tous les sens du terme. Et la fin du match à 3-3, tout est possible en fait. Alors qu'on serait resté à 0-2, ça devenait très compliqué.
Pour moi, il a changé de dimension, Annie. Il a changé de dimension parce qu'il a confirmé l'Euro, c'était pas donc un phénomène, c'était pas un épiphénomène. C'est-à-dire que tous les grands matchs depuis l'Euro, il est là. C'est-à-dire que Super Coupe d'Espagne contre le Real Madrid, il est là. Coupe du Roi, il est là. Quart de finale, huitième de finale, demi-finale.
Le match contre l'Atlético Madrid.
Il est là. C'est-à-dire qu'il est dans tous les grands matchs. Alors, je sais que la presse catalane l'a critiqué il y a deux mois pour dire qu'il ne marquait pas assez en championnat. J'espère qu'aujourd'hui, ils se disent qu'ils sont peut-être allés un peu fort. Mais tous les grands matchs, il est là. Et s'il choisit les grands matchs, tant mieux. Hein, parce qu'une carrière, c'est sur ça que ça compte. Et puis, c'est quand même un môme de 17 ans, comme l'a dit Jean-Philippe, qui a remis le Barça hier en lice, ils étaient menés 2-0. Mmh. Et c'est lui, c'est pas Rafinha, c'est pas Pedri, c'est pas un autre, qui a ramené le Barça dans le
monde. Surtout qu'il a secoué tout le monde, on a vu ses gestes.
Pour moi, s'il y a 17 ans, c'est aussi un leader, c'est incroyable. Bon, après, le seul écueil pour moi, c'est dans votre lancement, vous avez dit 100e match. Et ça, c'est un problème pour moi. 100e match à 17 ans, 18 ans le 13 juillet.
On se souvient d'Ansu Fati, on se souvient même des blessures de Gavi, voilà, de Pedri.
Et même sans ça, c'est très dangereux d'être déjà dans une jauge très 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 forte.
Très élevée. Voilà.
Ils font pas la Coupe du Monde des clubs et il peut y avoir des forfaits et donc ils vont peut-être être rappelés Barcelone si jamais il y a un forfait, un club qui y va pas. Donc s'ils jouent en plus la Coupe du Monde des clubs, qui pour moi empêche les vacances, donc empêche la récupération et ainsi de suite, parce que l'année prochaine il y a la Coupe du Monde
et la préparation.
Donc ça veut dire que là,
parce qu'on joue pas trop en ce moment-là, parce qu'on a beau dire, bon, c'est vrai que
hier on a vu deux joueurs qui se sont blessés et qui sont deux joueurs qui ont déjà beaucoup joué.
La veille d'Embélé,
Jules Koundé pour les Blaugrana et puis Lautaro Martinez
et la veille d'Embélé, donc vous avez trois grosses blessures sur cette demi-finale.
Et Jules Koundé était le joueur qui avait disputé le plus de matchs de façon continue depuis un an et demi, depuis 2023.
C'était 105 matchs sans s'arrêter. Voilà.
Et on l'avait mis juste au repos pour le temps qu'il récupère pour ce match-là, quand même assez décisif pour l'avenir du club.
Et les deux sortent avant la mi-temps, c'est terrible. Donc, et ils ne seront sûrement pas là au match retour.
Donc c'est pour dire que quelque part aussi, il faudrait que la FIFA revoie un peu sa feuille de route. Parce que c'est vrai, à un moment donné, on organise des compétitions, c'est pour gagner de l'argent, mais les joueurs, ils en gagnent assez. Aujourd'hui.
Il faut demander que les dirigeants y pensent. Et là, c'est un miracle.
Oui, mais à l'époque, Arsène, quand il disait qu'on joue trop, aujourd'hui, il devait être le défenseur.
Il a proposé une Coupe du Monde tous les deux ans quand même. Il a plaidé ça, Arsène Wenger. Hein.
Oui, mais le charme pour moi d'une Coupe du Monde tous les deux ans, non, c'est pas terrible.
Mais bien sûr que non, on est d'accord.
Et en plus de ça,
si vous écoutez Radio Foot, vous avez
dit entraîneur, il disait que, bon, on joue trop. Et maintenant, quand tu te retrouves sur l'autre côté de la barrière, en étant dans les instances, là, à partir de ce moment, tu demandes à ce qu'on organise d'autres compétitions. Mais les joueurs, quand même. Et le spectacle, ça tue le spectacle. Mais
là, ce qui m'étonne à moi, c'est que le syndicat des joueurs professionnels mondial, il doit avoir, non ? Il y a
la FIFA Pro.
Ils ne font rien. Bah, ils n'ouvrent pas la bouche.
Ils sont inaudibles. À un moment donné, ils ont essayé de lever un peu le ton.
Celui qui a essayé.
Il faut prendre tous les capitaines de toutes les équipes du monde, faire une réunion. Mais c'est fini.
Rodri, il a commencé à le dire, il s'est blessé juste après.
Celui qu'on a vraiment entendu, Rodri, même pas un mois après, il se blessait gravement.
Il faudrait que ça soit un ballon d'or qui le dise ou quelqu'un d'incontestable.
Mais... En tout cas, pour clore le sujet, Lamine Yamal, son papa, qui était dans les tribunes hier, Mounir Nasraoui, a assuré qu'on n'a pas vu 10% des capacités de son fils. Donc ça veut dire qu'il nous promet encore du spectacle.
Parce que lui, il a 10% des revenus de son fils.
Alors ça, sans doute. Mais ça,
attention, parce que son agent, c'est Jorge Mendes. Donc Jorge Mendes, il doit prendre quand même beaucoup d'argent. Et il est sous contrat jusqu'en 2026. Hein. Mm-hmm. Il va falloir vite qu'il le prolonge, nos amis barcelonais, quand même.
Oui, exactement. Avec une clause, je crois. Ça se fait comme ça, là-bas
en Espagne. Parce qu'il y a quand même des clubs riches sur Terre. Hein. Si ça vaut 300, 400 millions.
En tout cas, comment se présente le match retour ? D'abord, il y aura donc des absents, on vient d'en parler. À quel match faut-il s'attendre à Giuseppe Meazza à Milan ? Simone Inzaghi lève un peu le voile.
Le match retour sera aussi difficile que celui-là. On a eu de très bons moments et d'autres où on a dû souffrir tous ensemble, en sachant qu'en face, on a une très grande équipe du FC Barcelone. Barcelone aussi, je pense que s'il ne le savait pas encore, a compris qu'en face, il y avait une grande équipe de l'Inter, très difficile à battre.
Précision, Jules Koundé souffre d'une lésion distale du biceps fémoral de la cuisse gauche, Carlos. Et l'attaquant Lautaro Martinez, il avait l'air de souffrir exactement aussi de la cuisse gauche.
Tout à fait.
Et ça avait l'air d'être une blessure musculaire.
Ça nous amène à combien d'indisponibilité à Nice, hein, ces trois semaines?
Ben, en tout cas, c'est de oui, voilà. Ouais, en tout cas, personne ne les donne
Donc ils pourront jouer éventuellement
le match
finale.
Retour dans 6 jours.
Il y en a un des deux qui sera en finale.
Et ces deux pièces maîtresses dans
énorme.
Dans
la même blessure qu'avait eu Zidane en 2002 à la Coupe du Monde.
Mm-hmm. Ouais, et ça avait duré.
Bah c'est 3 semaines à moins.
Ils avaient essayé de réduire ça à 10 jours, mais ça n'avait pas tenu.
Non. Bah non. Carlos, comment Carlos Bianchi.
Quel match à la con contre la
Carlos. Carlos.
Quel match amical.
Répondez à ma question. Comment vous voyez le match retour, Carlos ? Ce match retour. Oui, là. Celui-là, là, 3-3, au match retour. Est-ce que l'Inter
a pris c'est que Barcelone a pris un avantage hier. Où est-ce qu'il joue ? Il s'en fiche où est-ce qu'il joue Barcelone parce que lui, il rentre sur le terrain pour jouer à Barcelone.
À la
Barcelonaise. Alors la question est là. Eux, ils vont arriver. Moi, je pense que pour le Paris Saint-Germain, si Paris Saint-Germain il se
qualifie, on va en parler après.
C'est mieux de qu'il se qualifie Barcelone.
Ah.
Parce que les Italiens sont plus difficiles, sont très.
Ah oui, non, mais vous.
Sont très malins.
Bah, c'est votre cœur parisien. Mais non. Sur le match. Parce que
sur le match, je pense que Barcelone, il est plus fort que l'Inter. Même Et si la Roma, il a battu l'Inter 1-0, et le Milan, il a battu à l'Inter 3-0 les 15 derniers jours.
Mais ce n'était pas la Ligue des Champions, il n'y avait pas la petite musique.
Mais excusez-moi, les deux buts premiers qu'ils sont marqués, ils ne le marquaient pas tous les jours, l'Inter.
Ah, bah ça non.
Il y a les circonstances un peu particulières de ce match. Quand on marque un but à la première minute, ça complique. Donc,
il a fait une belle talonnade quand ils avaient joué contre Munich.
Oui, pour la Lautaro Martinez à l'extérieur.
Exactement.
Mais le fait que le Barça ait renversé la vapeur, je pense que ça plaide plutôt en leur faveur. Parce qu'ils sont, ils sont revenus dans le match. Ils ont repris le dessus, ils ont pris la mesure de leur adversaire. Même si le score est nul à domicile et que ce n'est pas très favorable, évidemment.
Mais il n'y a pas de but à l'extérieur. C'est
moi,
un match.
Pour moi,
ça reste ouvert. Et quand on regarde le nombre de tirs cadrés du côté du Barça,
19.
Il y en a 19.
Donc, et 7 de l'autre côté.
Donc,
mais très efficace en face.
Moi, je ne suis pas d'accord avec mes camarades. Moi, je pense que c'est l'Inter qui va se qualifier. Déjà parce que je vous l'ai dit avant les quarts de finale, Annie, je vous ai dit une finale Paris-Inter, donc je maintiens évidemment mon pronostic, mais surtout, j'ai trouvé que le Barça était extraordinaire, et un soir où ils sont extraordinaires, ils ne font que 3-3 contre l'Inter de Milan. Donc, comme vous dites, il y a 19 tirs à 7, donc, et pour moi, il y a un but, en plus l'Inter a failli gagner, il y a un but qui est hors jeu pour une espèce de pointure de chaussure.
Un ongle.
Un ongle qui aurait très bien pu gagner 4-3. Non, mais ça, c'est terrible. C'est leur jeu de mécanique, là. C'est... Ouais, ouais. Et donc, pour moi, si vous voulez, l'Inter, qui est une équipe qui sait tout faire, c'est pour ça qu'elle est injouable aussi. C'est-à-dire que s'il faut subir, elle peut subir et contrer. S'il faut dominer, elle peut dominer. Elle a tous les registres. Et donc, évidemment, Barcelone joue son jeu partout, mais je pense qu'ils prennent trop de buts. Trop de buts. Ah, c'est rédhibitoire.
Rafinha était furieux d'ailleurs.
C'est rédhibitoire. Ça serait mieux qu'il s'est qualifié Barcelone. Après
le match. Oui, mais bon, ils choisiront pas s'ils vont en finale. Mais moi, je pense que c'est l'Inter qui va se qualifier. Parce que Barcelone,
ils jouent les gars. Ils jouent naïfs. Oui. Moi, il y a des fois qu'ils jouent naïfs.
Bah oui, ça se voit d'ailleurs.
Cette naïveté-là va les perdre, je pense.
La deuxième mi-temps, les arrières centraux, c'était 10 mètres de l'autre côté du milieu de terrain. Je dis, tu sais comment c'est. Il y a quelqu'un qui est...
Et je pense que leur gardien n'est pas génial.
Un qui se trompe, tu hypothèques la finale. Un qui se trompe au milieu de terrain, avec les défenseurs qui étaient à 5 mètres, c'est fini.
Je pense que le PSG a plus de talent devant avec Dembélé, Garashkelia.
Attendez, on parlait du PSG.
Quand on parle du match de l'Inter.
Oui, restons sur l'Inter.
Voilà.
Quelques secondes.
Quand Dominique dit qu'aujourd'hui, il parie sur l'Inter, mais moi, je me dis, quel que soit Alpha, quel que soit le contexte, ils ont pris déjà 3 buts chez eux. Et donc, au retour, c'est sûr qu'ils ont essayé de corriger leurs erreurs. Mais sur le plan offensif, l'Inter n'est pas aussi fourni que contrairement au Barça.
Oui, mais ils ont joué avec quand Lautaro Martinez était sur la pelouse, il n'était pas terrible. Et après, il est sorti sur blessure. Et ils ont continué à marquer un troisième but. Et même, ils ont failli en marquer un quatrième. Donc, je me dis que finalement, il se passe quelque chose. Ils étaient en finale il y a 2 ans. C'est vraiment une équipe. Alors, ils vont peut-être récupérer Pavard au bout d'un moment. Plus. Donc, non, je pense que...
Mais sur le plan offensif, comment tu le trouves? Parce que là,
c'est la
en termes d'occasion, ils n'ont pas été flamboyants.
C'est la meilleure équipe d'Europe sur coup de pied arrêté.
Oui,
alors les amis,
sur les CPA, si.
On mélange les deux matchs, évidemment, puisqu'on a eu les deux et qu'on est à la mi-temps là, de ces deux matchs. Dans ce dernier carré, est-ce que vous avez vu une équipe plus forte? Est-ce qu'il y en a une qui, selon vous, est la plus impressionnante et que vous voyez déjà en finale, Jean-Philippe?
Alors, sur un match, là,
on a vu les quatre équipes jouer.
On a deux matchs. Sur ces deux matchs-là, le Paris Saint-Germain est celle qui s'est le mieux comportée, qui a été le plus impressionnante. Maintenant, pour arriver...
Parce qu'elle n'a pas encaissé de but et qu'elle a gagné à l'extérieur.
Oui, et puis parce qu'elle maîtrise son sujet quand même. C'était un match très intense quand même.
Très tactique.
Ouais, très tactique. Et ils ont vraiment tenu leur schéma de jeu. Donc là-dessus, le PSG a reçu beaucoup d'éloges de la presse anglaise, notamment, et les mérite. Après, si on regarde ce qui s'est passé juste avant, notamment contre les équipes anglaises, le PSG... Sur deux matchs, il y avait deux faces.
Hein,
donc là-dessus,
justement,
il y a un manque de régularité du PSG qui rajoute de l'incertitude quant au retour.
Ils ont un but d'avance. Mikel Arteta, on va l'entendre. Lui, il ne s'avoue évidemment pas vaincu.
We are half time and my message has been the
same. Nous sommes à la mi-temps, et oui, la mi-temps. Et mon message est exactement le même qu'après le 3-0 contre le Real à domicile. Il faut maintenant aller là-bas pour gagner, et on en est largement capable. Si tu veux gagner une finale de Ligue des Champions, tu dois faire quelque chose de spécial. Et à Paris, il va falloir qu'on fasse quelque chose de très spécial pour y être.
Carlos, un but de retard quand on est entraîneur de l'équipe qui visiteur de ceux qui vont venir jouer à Paris. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est infaisable? Est-ce que c'est faisable?
Ça dépend l'équipe. Dépend l'équipe. Pour moi, Arsenal, c'est pas une grosse équipe. Franchement, c'est une équipe, une bonne équipe, mais sans plus.
Pourquoi?
Parce qu'il ne m'a pas le championnat qu'il est en train de faire.
Mais contre le Real Madrid, l'autre jour, ils ne vous ont pas impressionné?
Mais il a marqué un mec qui marque 2 buts par an. Gris, il marque 2 buts par an. Il a marqué les deux ces jours-là. Alors, pour moi, Arsenal, c'est une équipe. Et je pense que Paris, il a pris Liverpool au moment que Liverpool était en bas. Parce qu'il a la meilleure équipe pour
Manchester
moi.
Et Manchester City aussi.
Liverpool. Ouais. À un moment donné, Liverpool.
Mais en début de saison.
Mais je pense que Paris Saint-Germain, il a toutes les possibilités pour se qualifier, mais tranquillement.
T'as la falle?
Ouais, moi, je vois Paris. Je pense que c'est une équipe assez complète sur tous les compartiments du jeu. Déjà, on a un grand Donnarumma aujourd'hui qui est quand même à sa place. Parce que pour être dans une grande équipe, il faut avoir un bon gardien, un très bon gardien, capable de pouvoir sauver des buts. Et au milieu de terrain...
Sauvé.
on voit des garçons qui jouent au ballon, qui savent garder le ballon. Et devant aussi, il y a des garçons qui savent faire très mal. Aujourd'hui, quand tu vois la ligne d'attaque du Paris Saint-Germain, tu te dis le danger peut venir de partout. Donc, il y a des permutations sur tout le front de l'attaque.
Ouais,
tu peux te retrouver à gauche, à droite, et tu peux te retrouver comme avant-centre. Mmh. Et ça aussi, c'est la particularité du coach. Donc, je pense quand même que c'est quelque chose quand même qu'il va falloir tenir en compte.
Dominique, l'équipe qui m'a ça doit chatouiller vos oreilles. Hein.
Oui, non, mais l'équipe qui m'a le plus impressionné, c'est la plus complète, c'est Paris. Les 20 premières minutes à Arsenal, pour moi, c'est extraordinaire. Il n'y a pas 20 minutes comme ça de l'Inter, de Barcelone ou d'Arsenal dans cette demi-finale. Donc c'est que 20 minutes. Hein.
Mais l'Inter, bon, quand même, là, les 20 premières minutes, ils ont un peu éteint
Barcelone. Oui, mais il y a un coup de pied arrêté. Bon, le but de Dumfries est génial. C'est une espèce de ciseau sur un corner. Mais,
et celui de Thuram aussi.
Oui, oui, mais ça, c'est dans le jeu. Et c'est au bout de 30 secondes. Donc mais c'est plus comme c'est sur coup de pied arrêté et qu'ils sont très forts sur coup de pied arrêté. Paris, c'est une équipe qui est beaucoup plus fort dans le jeu, sur coup de pied arrêté, justement, c'est un peu leur défaut, et défensif et offensif. Le joueur qui m'a le plus impressionné, c'est Lamine Yamal, donc il ne joue pas à Paris. L'équipe qui m'a le moins impressionné, c'est Arsenal, des quatre. Donc je reste sur mon Paris Inter en finale.
Dominique, ça ne t'étonne pas que l'équipe que tu viens de dire, tu as raison, je suis tout d'accord avec toi, hein, de Paris Saint-Germain, que c'était la meilleure des quatre. Le meilleur joueur du terrain, c'était le gardien de but. Si Donnarumma, il faussait un match comme il fait des habitudes, ils auraient encaissé 2-3 buts, Paris Saint-Germain.
Oui, bien sûr.
Moi, je trouve que les Parisiens ont tous, sur ce match-là, ils ont tous haussé leur niveau de jeu. On a vu Fabien Ruiz qui était bien meilleur que
le gardien, surtout. Le gardien,
Jean Neves.
Neves qui était vraiment top, alors qu'il a beaucoup de hauts et des bas, et voilà, enfin, il est très irrégulier. Vitinha. Donc là, on a eu globalement tout le groupe qui était vraiment au niveau, et avec une circulation de balles, et remontées de balles sereines. Enfin, c'était assez impressionnant.
Mon seul regret, c'est qu'ils n'aient pas mis un deuxième but, parce que je pense déjà qu'à penalty, sur Kvaratskhelia, les 20 bonnes minutes. Il est quand même ceinturé. Je vois pas comment, pour moi, il n'y a pas pénalty. Ouais. Et puis après, Barcola et Gonzalo Ramos ont deux occasions énormes. Alors, il y a peut-être eu hors-jeu parce que, comme elles n'ont pas été.
Ça a dû faire du bruit sur la barre aussi.
Oui, ça a fait du bruit. Ah, la barre, c'était Gonzalo Ramos.
Ah, oui.
Et Barcola,
oui,
c'est juste à côté. Il rate son face-à-face. Mais bon, peut-être qu'il était hors-jeu. Donc.
Bon ben voilà, et on aura l'occasion de faire des pronostics, mais j'ai bien compris, vous voyez tous le Paris et Saint-Germain comme l'un des plus forts.
On l'espère aussi, il faut être honnête. Hein. On est français.
Paris, Saint-Poissy.
Ils sont à Poissy, ils s'entraînent à Poissy.
Saint-Poissy maintenant.
Oui.
C'est fini Saint-Germain.
Ouais, ça s'appelle pas encore Paris Saint-Poissy, mais peut-être un jour.
Car Olive, le maire de Poissy, aimerait beaucoup votre proposition, mais ça ne marche pas comme ça.
Il paraît. Avant de nous envoler vers le Sénégal avec vous, Talafal, un peu de musique. Mino Crusaders nous vient, son nom ne l'indique pas, mais du Japon. Et ça s'appelle Kaigara Bushi.
Thank you.
Minyu Crusader du Japon, donc Kaigara Bushi, à retrouver sur la playlist de RFI Musique.
Deni Biram Dao, petit village situé à 48 km au nord de Dakar, abrite une académie de football qui, depuis sa création en 2000, est un incubateur à talent du football africain. Parmi les joueurs passés par Génération Foot, un nom se dégage de la bouche des encadreurs et des pensionnaires, Sadio Mané.
Si un vient, il va être accueilli par l'autre. Et c'est moi-même qui ai accueilli Sadio quand il est venu à Metz.
J'ai vu de grands joueurs passer par ici, comme Sadio Mané.
Il est le modèle et la source de motivation de tous les jeunes de Génération Foot.
Génération Foot, grâce à Laurent et Yoro, donc, ce petit mix, c'est l'une des académies en vue du Sénégal. Alors, on a entendu hein, les noms, les grands noms qui en sont sortis. Actuellement, il y en a un qui s'appelle Lamine Camara, qui est le milieu de terrain de l'AS Monaco. Il a 21 ans et c'est vous qui l'avez formé. Il est sur la liste des 12 possibles vainqueurs du prix Marc-Vivien Foé d'Alafal. Parlez-nous de lui.
Ben, Lamine, c'est un garçon quand même poli, mais beaucoup travailleur. C'est quelqu'un qui savait où est-ce qu'il voulait aller. Donc, il savait que pour réussir dans ce football d'aujourd'hui, qu'il fallait beaucoup bosser et vraiment être régulier. Et donc, pour ça, il ne se contentait pas de faire seulement les entraînements collectifs avec les coachs. Non, il se levait lui-même pour aller bosser de manière individuelle. Et il le répétait tout le temps. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il a pu au moins arriver à un certain niveau et pouvoir accéder au niveau professionnel dont il est aujourd'hui. Mmh. Et je pense que c'est ça un peu sa particularité. C'est un garçon ambitieux parce qu'on a été dans son village pour voir d'où il venait, à Djouloulou, dans le sud du Sénégal, plus particulièrement en Casamance. Et quand tu vas là-bas, donc Sadio même, il est de Bambali, c'est pas très loin. Mais après ça, tu comprends mieux le garçon. Pourquoi il a envie de réussir et pourquoi il s'est autant donné pour pouvoir vraiment arriver à ce niveau-là. Et à partir de ce moment, je pense que étant dans de bonnes conditions, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les installations à Génération Foot, on n'en vit pas ce qui se passe aujourd'hui en Europe, loin de là. Donc, c'est des garçons qui sont aujourd'hui sur place et qui ont des conditions de performance qui leur permettent de pouvoir vraiment accéder au très haut niveau.
Il a été, il est tenant du titre d'ailleurs de la CAN des U20, hein, c'est-à-dire des moins de 20 ans. Il a participé à cette aventure. Là, actuellement, il y a cette même compétition en ce moment et il y a deux joueurs de votre académie qui sont aussi, c'est Diouf et Diallo, c'est ça?
Oui,
hein,
absolument.
Est-ce que quand vous les voyez, ces jeunes évoluer, grandir, avec évidemment une envie de partir, vous essayez de les contrôler et de leur... de contrôler dans le sens positif, c'est-à-dire de leur dire « Attention, là-bas, si on y va trop tôt, on peut aussi peut-être se brûler les ailes. »
Ben non, je pense
qu'aujourd'hui... Est-ce que ça fait partie de votre travail, ça?
Ben, absolument. C'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, on a des garçons qui sont mineurs. Donc, quand ils arrivent chez nous, ils ont quoi, 11, 12, 13 ans, maxi. Et peut-être pour certains qui arrivent à 15 ans ou 16 ans... Peut-être qu'ils ne font pas beaucoup de temps à Génération Foot, mais pour ceux qui arrivent à 11-12 ans, déjà qu'on a la chance d'avoir un lycée sur place. Donc, ce qui permet, par exemple, de pouvoir les contrôler, de pouvoir suivre leur évolution, de les conseiller davantage, de parler avec leurs parents et de parler même avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils ont, pourquoi le garçon ne progresse pas. Au bout de 6 mois, après avoir fait des tests, pourquoi le garçon a des problèmes, pourquoi il ne s'exprime pas. Donc, tout ça, ça fait partie du coaching. Et à partir de là, tu vois si le garçon, il progresse au bout de 6 mois, parce qu'on a aujourd'hui un médecin qui est là-bas, un professeur orthopédiste. Donc, il y a tout un staff qui est derrière ces garçons-là pour leur permettre vraiment de pouvoir s'épanouir. Et à partir de là, chaque garçon, aujourd'hui, dans le centre, a une fiche qui nous permet de pouvoir de voir de 3 mois à 6 mois à mais, 1 an comment ça se passe.
Mais est-ce que vous faites attention de ne pas les lâcher trop tôt vers des clubs européens ?
Ben non, ils sont préparés pour ça parce qu'ils jouent aussi à des compétitions internationales. Ils voient ce qui se passe. Aujourd'hui, ils participent à des tournois. Mm-hmm. Peut-être souvent, on est invité au Maroc. On a été en Suisse pour le tournoi de la FIFA.
Ouais, donc, ils sont déjà aguerris.
Voilà, mm-hmm. donc ils voient le football mondial, comment ça se passe aujourd'hui.
Vous avez un accord avec, avec le club de Metz, où on a vu passer des joueurs qui sont devenus, ne serait-ce que Sadio Mané. C'est important, ce partenariat, pour offrir finalement un horizon aux joueurs.
Ben, c'est déjà une assurance pour eux, les garçons. C'est dire que si je suis performant, si je suis bon, je suis sûr d'aller à Metz.
En Ligue 1 ou en Ligue 2.
Voilà. Et à partir de là, je peux au moins franchir un autre palier. Parce qu'on en a vu des garçons, Sadio, il y a eu des Diafra Sakho, et tant d'autres, les Baba Karghei, les Dino Djiba. Donc il y en a eu qui sont passés par là. Et aujourd'hui, donc, on a réduit le temps de travail avec ceux qui sont partis avant. Parce qu'aujourd'hui, on voit ce qui se fait à Metz, c'est ce qu'on peut répéter avec les coachs qui sont là-bas. Mmh. Et les conditions aussi nous permettent aujourd'hui de pouvoir faire progresser ces garçons-là plus rapidement.
Jean-Philippe ?
Depuis une vingtaine d'années, là, toutes ces académies ont fleuri en Afrique. Il y en a de plus en plus. C'est devenu hyper concurrentiel. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup.
Ne serait-ce qu'au Sénégal, ouais. On parle de Dakar Sacré-Cœur, bien sûr, et de Diamba.
Voilà, c'est ça. Mais ça fait un peu plus de 20 ans. Et c'était innovant il y a une vingtaine d'années. Et le modèle a fait florès. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est comment vous vous adressez aux jeunes. Comment vous pouvez leur promettre que chez vous, ça va se passer mieux qu'ailleurs. Quelles sont vos spécificités pour convaincre un jeune de venir chez vous ?
Ce sont les conditions dans lesquelles ces garçons-là vivent à Génération Foot. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup au Sénégal. À part Diamba, modestie à part, les conditions dans lesquelles ces garçons sont aujourd'hui à Génération Foot, il n'y en a pas plusieurs. Il y a des académies qui sortent et actuellement, on a reçu les experts de la FIFA parce que le Sénégal comme le Maroc ont été choisis comme modèle de la FIFA pour pouvoir faire le ranking au niveau des académies. Et donc, aujourd'hui, les garçons qui sont à Génération Foot, je peux vous dire qu'ils ont tout pour réussir. Ils ont tout sur place.
Parce que vous travaillez aussi, non seulement la partie sportive, mais aussi, et ça, je me souviens, quand nous étions allés à Diamba, on travaille aussi sur le reste. On fait des citoyens, comme on disait du côté de Sali.
Absolument. Nous, on cherche à former des hommes. Voilà. Aujourd'hui, on a un lycée. Pour les garçons qui ne peuvent pas aller faire une carrière professionnelle, au moins, on va les orienter à faire des études. Et auquel cas, même si tu ne vas pas jusqu'au bac, mais la possibilité de faire une formation professionnelle. Mm-hmm. Donc, c'est ça, à ça que sert aujourd'hui le lycée à Génération Foot.
Et vous avez trop de demandes pour pas assez de place ?
Ben, pour vous dire vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, on a au moins 50 correspondants dans tout le Sénégal qui organisent des tests et on cherche vraiment l'excellence pour la détection. Mais on cherche aussi l'excellence. Et pour ça, on a une forte demande et on peut se dire quand même que c'est des garçons qui veulent venir là-bas. Parce qu'au moins, si t'es bon, t'es sûr de pouvoir aller à Metz. Rien ne va t'en empêcher. Parce qu'il y en a même qui partent en cours de saison.
Donc, Ils vont à Metz.
Ah non.
Ils signent déjà.
Non. Quand ils vont à Metz, ils signent.
Ah, ils se signent déjà.
Non, c'est ça. C'est au moins la particularité dans le partenariat aujourd'hui.
Ils ne doivent pas faire un essai.
Non, du tout.
Rien du tout.
Du tout. Parce qu'ils voient la progression des gamins. Ils suivent.
Ils suivent la progression des gamins.
Parce qu'on a dans la convention qui nous lie aujourd'hui avec les FCMS de prendre 2 joueurs par an. Et peut-être qu'il y en a même qui peuvent prendre 3. Parce que la génération de Lamine Camara pendant la CAN U20, il y a Pape Amadou Diallo qui était prévu comme Lamine. Mais après, entre-temps, ils ont vu Malik Mbaye qui joue aujourd'hui à Amiens. Et donc, ils se sont dit, mais pourquoi pas ne pas prendre Malik dans la convention. Et c'est comme ça que Malik est parti.
Vous cherchez d'autres partenariats avec d'autres clubs ou pas ?
Ben, l'exclusivité est pour le FCMS.
D'accord.
Donc, à partir du moment où le FCMS...
Ils ont le premier choix.
Deux par an, c'est pas beaucoup. Si vous avez 4 talents, il y en a 2 qui restent.
C'est à eux de faire le choix qu'il faut. Hein. Mais non, nous, on forme. on est là, on est disponible.
Ça dépend de l'aide. Ça dépend de l'aide qu'ils le donnent à la...
Non, même pas. Mais, c'est que mais eux, ils ont...
Comment il est l'accord?
L'accord, c'est une contribution financière tous les ans. Mais dans la convention aussi, il est dit quand même que tu dois prendre deux joueurs.
Deux joueurs.
Voilà. Et il y en a aussi qui peuvent partir aussi à Sarin. C'était une autre opportunité parce qu'on avait vu de la génération de Lamine Camara, celle qui a gagné la CAN U20, on en avait au moins 7, voire même 8. Sadibou Sané, il n'était pas titulaire dans cette équipe où il y avait Lamine Camara pendant la CAN U20. Il y avait Ibou Sané. Ils étaient tous remplaçants dans cette équipe-là. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont à Metz. Sadibou, il joue en défenseur central titulaire. Et pourtant... Il ne jouait pas dans l'équipe des U20.
Talafal, une dernière question au sujet du... Le football sénégalais, on l'a vu dominer beaucoup de catégories ces dernières années, remporter des CAN, que ce soit les moins de 17 ans, les moins de 20 ans, la CAN, bien sûr. Est-ce que, justement, ces académies ont permis au football sénégalais de s'illustrer au niveau continental et voire en Coupe du Monde?
Ben, c'est la réalité. Hein. Aujourd'hui,
c'est le fruit
de ce travail-là. Les gens ont investi. Et c'est l'occasion aussi de rendre hommage à Saher Seck, qui est aujourd'hui malade, et à qui on souhaite un rétablissement. De Diambar, qui a été le membre fondateur de Diambar. Et ça a permis. Parce que quand on voit toutes les équipes qui ont gagné pendant cette période-là, la majorité de ces garçons sortent des académies.
Mm-hmm. Et vous, en plus, vous participez au championnat de première division du Sénégal.
Voilà, et ça, aujourd'hui, on ne peut pas le nier. Ces académies-là ont permis au Sénégal de pouvoir être sur le toit de l'Afrique. Mm-hmm. Parce que dans chaque catégorie où on a été champion, il y a au moins 5, voire 6 joueurs, 7 même de génération foot qui sortaient de l'académie. Mm-hmm. Ou même de Diambar aussi, à côté, il y en avait 5. Et même dans l'équipe nationale qui a gagné la Coupe d'Afrique, il y avait combien de joueurs des académies? Il y en avait 8 qui sortaient des académies. Mmh. Aujourd'hui, quand tu vois l'équipe nationale A du Sénégal, il y a combien de joueurs de génération foot, d'anciens pensionnaires? Et donc, ça prouve nettement qu'à un moment donné, si on a voulu rattraper le retard qui était entre l'Afrique et l'Europe, c'était d'avoir ces académies.
Merci beaucoup, Talafal, de votre visite et de nous avoir parlé de cette académie et de ce système qui permet au football sénégalais de briller depuis quelques années sur la scène continentale. Merci beaucoup, messieurs Carlos, Jean-Philippe et Dominique, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci aussi à Yoro Mangara pour son soutien à cette émission. Talafal, vous revenez quand vous voulez dans Radio Foot, bien sûr. Demain, n'oubliez pas, c'est le Café des Sports. Nous avons un rendez-vous demain en fin d'après-midi et on compte sur vous pour les cartons, bien sûr. N'hésitez pas, vous nous les envoyez du monde entier. Mettez-vous en scène, faites-nous des choses belles. Et les filles, bien sûr, on compte sur vous aussi. Merci à tous, bonne soirée, à demain.